Bonjour à toutes et à tous. Alors, permettez-moi de vous demander quelle est la dernière fois où vous vous êtes vanté de quelque chose que vous avez fait, du travail que vous avez réussi à accomplir, de la partie de ping-pong ou de bowling que vous avez gagnée, de la petite phrase que vous avez bien placée et qui a ridiculisé votre interlocuteur. Et je ne parle pas nécessairement de se vanter auprès de quelqu'un, mais de ressentir dans son propre cœur de la fierté. Nous avons un problème en tant qu'être humain avec la fierté. Nous avons du mal à faire des choses, y compris des choses très bonnes, sans chercher à se valoriser, à se glorifier. C'est une tendance naturelle de l'être humain qui peut également toucher notre foi, au point que nous placions notre confiance et notre espérance dans ce que nous faisons pour Dieu et pas de ce qu'il a fait pour nous. Et ce glissement de pensée peut se produire insidieusement sans qu'on le réalise vraiment. Cette tendance peut être imperceptible, invisible, enfouie dans notre cœur, mais le texte que nous allons lire aujourd'hui va nous apprendre, nous faire prendre conscience tout à nouveau que Dieu regarde au cœur et que ceux qui sont justes devant lui sont ceux qui, dans leur cœur, se savent injustes. Le juste selon Dieu, c'est celui qui se sait injuste. On va lire en fait un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, et qui ne se trouve d'ailleurs que dans l'évangile de Luc. Il s'agit de la parabole du pharisien et du publicain qui vont prier au temple. On aura l'occasion d'expliquer qui sont ces personnages. Mais avant de lire, il faut savoir que Jésus venait juste avant de parler de l'impiété, du manque de piété et de foi qui caractériserait le monde lorsque Jésus reviendra lors de sa seconde venue. Un monde tellement dénué de foi véritable qu'il ne pouvait être comparé qu'à celui d'avant le déluge de Noé ou à celui du temps de Lot, de Sodome et Gomorre. C'est ce qu'on lit au chapitre 17 de Luc. Puis il leur expose la parabole du juge inique, le mauvais juge, pour enseigner que les hommes devaient toujours prier, toujours persévérer dans la prière. Jésus veut assurer à ses disciples que Dieu écoute la prière et qu'il prend la défense des siens en réponse à leurs cris. Et il pose finalement cette question assez solennelle, juste avant le texte qui va nous intéresser. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est le verset 8 du chapitre 18. Le Fils de l'homme désigne Jésus, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et d'une certaine manière, le texte qu'on va lire et qu'on va étudier répond à cette question. Quelle foi trouvera le Seigneur ? Et ce passage nous présente deux types de foi à travers les personnages du pharisien et du publicain. Ces deux hommes font la même chose, ils vont au temple pour prier. Mais leur attitude et leur prière sont diamétralement opposées et témoignent en fait de la teneur de leur foi et du regard qu'ils ont sur eux-mêmes et sur Dieu. On va donc lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On va commencer par prier. Notre Dieu, nous te prions d'éclairer notre intelligence par l'intermédiaire de l'étude de ce passage de ta sainte parole. Nous te prions de parler à notre cœur, de nous instruire dans ta grande sagesse, de nous montrer ce qui est juste et droit devant toi, de nous révéler l'attitude de cœur que tu attends de la part de ceux qui veulent t'honorer et te glorifier dans leur vie. Amen. Alors regardons premièrement le pharisien. Jésus voulait dénoncer à travers lui l'attitude de certaines personnes qui croient être justes et qui du coup méprisent les autres. Il dénonce en fait ici l'orgueil spirituel qui se manifeste donc de ces deux manières, se croire juste et mépriser les autres. Et il prend l'exemple d'un pharisien. Alors qu'est-ce qu'un pharisien ? Alors les pharisiens, c'est les membres d'un parti religieux et politique qui était très attaché à la mise en pratique de la loi de Moïse et aux traditions juives. Ils avaient une rigueur morale et rituelle. Ils représentent un peu les hommes bien sous tout rapport, les religieux. Et avant sa conversion, l'apôtre Paul était un pharisien. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il connaît si bien la loi. Les pharisiens, c'était un peu les gardiens de la loi, ceux qui l'appliquaient sans concession. Vous allez me dire jusque-là, bah, très bien. Ils avaient Dieu en haute estime et ils respectaient sa loi. Oui, ils honoraient Dieu des lèvres, mais leur cœur était éloigné de lui. Et c'est le reproche que Jésus leur fait. Ce pharisien, dans la parabole, il pense qu'il est juste. Et Jésus veut justement dénoncer ceux qui se croient justes. Parce que pour Dieu, les justes sont ceux qui se savent injustes. Et il se croit juste parce qu'il se place au centre du scénario. Vous voyez, sa prière, elle révèle en fait son amour pour lui-même. Il s'exalte lui-même. D'ailleurs, il prie en lui-même. C'est au verset 11. Il se parle à lui-même. Et puis il poursuit avec un « je te rends grâce, je ne suis pas, je donne » quatre fois « je » en une phrase. Il est lui-même au centre de sa prière. Il remercie Dieu non pas pour ce que Dieu est, mais pour ce qu'il est lui-même. C'est moins une prière à laquelle il rend grâce à Dieu qu'une félicitation qu'il s'adresse à lui-même. Il se félicite de ses œuvres. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Et la liste est certainement bien plus longue. Et ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'il se félicite de faire quelque chose que Dieu n'a même pas demandé. C'était le propre des pharisiens qui rajoutaient des traditions orales à la loi de Dieu. Ils rajoutaient des règles. Jeûner deux fois par semaine n'est pas une préconisation de la loi de Dieu. Et en se vantant de faire ça, il donne l'impression que la loi de Dieu est tellement facile pour lui qu'il peut même faire plus. Il était fier d'être plus royaliste que le roi. Mais il témoigne qu'il n'avait pas compris ce qu'attendait le roi. En tout cas, en ce qui concerne le jeûne, par exemple. Le seul jeûne qui semble vraiment institué par Dieu dans la Bible, c'est le jeûne du jour des expiations, celui du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et encore, le texte n'est pas extrêmement clair en Lévitique 16. Pour dire que c'est bien un jeûne qui est attendu. Le texte dit « Vous humilierez vos âmes pour être purifiés de vos péchés devant l'Éternel. Bon, » en tout cas, les Juifs aujourd'hui continuent à pratiquer ce jeûne ce jour-là, ce jour de fête. Mais ce pharisien, il se vante de jeûner deux fois par semaine. Jésus n'a à notre connaissance jeûné qu'une seule fois dans le désert. Et il l'a fait de manière très privée. Alors, loin de moi l'idée de dire que le jeûne est inutile. Mais le jeûne, c'est un acte volontaire accompli pour des raisons particulières, pour animer une prière fervente par exemple, pour un moment d'affliction, pour un moment où on cherche à discerner la volonté de Dieu. Les pharisiens, eux, ils voyaient plutôt le jeûne comme une pratique publique qui témoignerait de leur ferveur, de leur consécration, de leur piété. La prière, l'aumône, le jeûne sont des pratiques spirituelles qui sont toutes bonnes, mais qui doivent être motivées par le désir de rendre un culte à Dieu. Et non de faire étalage de sa piété pour gagner l'admiration des autres, ou pour gagner son salut. Le pharisien ne faisait pas de choses mauvaises, mais son problème est qu'il se glorifiait de ce qu'il faisait. Et un acte perd toute sa valeur lorsqu'il est fait pour de mauvaises motivations. Matthieu, chapitre 6, versets 3, 4 et puis 17, 18, nous dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et un peu plus loin. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là, dans le lieu secret. Ton père qui voit dans le secret, te le rendra. » Ces versets viennent du Nouveau Testament, mais la critique du jeûne tel qu'il était pratiqué à l'époque existe aussi dans l'Ancien Testament, Ésaïe 58. Et vous pourrez lire ce texte à la maison parce que je ne vais pas m'étendre sur la question du jeûne, mais tous ces textes nous rappellent que Dieu voit au cœur. Ce qui l'intéresse n'est pas la piété extérieure, celle que l'on voit. Le pharisien ne s'adresse à Dieu que pour se confirmer à lui-même qu'il est juste, qu'il fait tout ce qu'il faut, qu'il n'a rien à changer. Il se justifie lui-même, il se félicite d'être juste et d'avoir gagné lui-même son salut d'une certaine manière. Mais celui qui croit être juste témoigne qu'il ne l'est pas. La condition essentielle pour s'approcher de Dieu, c'est de reconnaître en premier que l'on n'en est pas digne. Et on le verra dans quelques instants avec l'exemple du publicain. Jésus condamne les pharisiens à de nombreuses reprises. En Matthieu 15, on lit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, comme par exemple jeûner deux fois par semaine. » Et en Matthieu 23, versets 27-28, Jésus leur dit « Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Au dehors, ils paraissaient justes, mais au dedans, ils étaient remplis de péché. C'est comme si je vous offrais à boire dans une coupe magnifique. Vous voyez, une coupe en or, 24 carats, avec des incrustations de diamants, de pierres précieuses. Et quand vous portez la coupe à vos lèvres, vous vous rendez compte qu'elle est remplie d'urine. Ce n'était pas la beauté extérieure de la coupe qui comptait, mais bien ce qui était contenu à l'intérieur. On peut vite se laisser abuser par l'aspect extérieur des choses. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde l'intérieur, il regarde au cœur. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a choisi David comme roi, par exemple, dans l'Ancien Testament. David, c'était un petit berger insignifiant. On ne l'avait même pas amené pour se présenter devant le prophète Samuel. Pour ses proches, c'était juste un... il était juste bon à garder les moutons, quoi. Mais Dieu l'a choisi parce que 1 Samuel 16,7 nous dit... L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là qu'on trouve cette fameuse phrase, l'Éternel regarde au cœur. Le pharisien de notre histoire, il paraît bien sous tout rapport. Et on aurait certainement été très impressionné de sa piété. Il allait au temple pour prier, il avait une vie bien réglée, il était généreux, il en faisait même plus que ce qu'on demandait, que ce qu'on pouvait attendre. Il était tellement bien qu'on aurait certainement aimé être son ami. Qu'il soit notre mentor spirituel peut-être, lui qui semblait si pieux. Mais méfions-nous des apparences lorsqu'il est question de piété. Dans son cœur, ses motivations intimes et profondes étaient mauvaises. On ne peut pas changer soi-même son cœur, c'est vraiment une œuvre de Dieu. Et ce qui manque en fait à ce pharisien, c'est la conscience du péché, c'est le sentiment d'indignité, d'être indigne. Il se justifie par ses œuvres et nous pouvons être tentés nous aussi d'imaginer des conditions qui, à nos yeux, font que quelqu'un est un bon chrétien. Je suis un bon chrétien parce que je prie tous les jours. Je suis un bon chrétien parce que je lis ma Bible assez souvent. Je suis un bon chrétien parce que je suis membre d'une église locale, que je donne avec générosité dans la collecte et que je donne même à des associations chrétiennes en plus. Je suis un bon chrétien parce que j'exerce l'hospitalité parfois. Et hier, j'ai même donné un sandwich à un SDF. Et vous pouvez compléter la liste avec ce qui vous vient à l'esprit. Je suis un bon chrétien parce que... Et donc Dieu doit être fier de nous, n'est-ce pas? Alors oui, tout cela est bon en soi. Tout ce que j'ai cité est bon. Mais les humanistes, les agnostiques ou les athées essaieront de se défendre devant Dieu en disant qu'ils n'ont pas été si mauvais. Regarde Seigneur, je me suis investi dans les Restos du Cœur. Un médecin du monde, un handicap international, j'ai aidé mon voisin à couper du bois, et puis j'ai tué personne. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que je viens de citer n'est pas bien, mais ce n'est à aucun moment nos œuvres qui pourront nous justifier, nous racheter. L'idée qu'au jour du jugement, lorsque nous paraîtrons devant Dieu, il y aura comme une balance, et puis on pèsera le bien, le mal, et on verra ce que ça donne, et bien ça ne vient pas de la Bible. La Bible, elle nous livre ce diagnostic, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ce n'est donc pas à nos œuvres qu'il faut regarder parce qu'elles seront toujours insuffisantes pour nous racheter devant Dieu. Jésus, il n'y va pas par quatre chemins dans cette parabole. Il ne dit pas une personne, il dit un pharisien. Il laisse aucun doute sur le type de personne qu'il vise. Il vise les gens religieux, comme nous. Ceux qui peuvent s'appuyer sur des choses qu'ils font pour Dieu et qu'ils pourraient en tirer gloire. Il aurait pu cibler un païen, un humaniste qui pense que parce qu'il fait le bien... Dieu sera fier de lui, mais Jésus cible ici délibérément un religieux, quelqu'un qui aspire à la pureté et à la piété. Et on verra que le publicain, il se frappe la poitrine tellement il a honte. Le pharisien, lui aussi, devait se frapper la poitrine, un peu comme un gorille, tellement il était fier et tellement il voulait impressionner. Il n'exprime aucun besoin, aucune attente envers Dieu, aucune conviction de péché, aucune repentance, aucune confession de péché. Il pensait que Dieu exigeait quelque chose de lui et il se flattait de pouvoir le satisfaire. Mais il ignorait cette vérité que l'on trouve en acte 17. Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Et un peu plus loin. Et qui annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Quand on lit la justice, il faut comprendre sa justice à lui, pas celle des hommes. Alors quand on voit l'attitude de cet homme, on pourrait être tenté de dire « Ah, sacré pharisien !» Ils n'en loupent pas une cela pour se mettre en avant. « Ah, sacré pharisien ! Sacré pharisien !» Mais réfléchissons, examinons notre cœur, ne jugeons pas trop vite, c'est peut-être de nous dont il est question. Quelle est notre attitude ? Quelle était notre attitude de cœur aujourd'hui en venant au culte, par exemple ? Est-ce que nous sommes venus pour que Alex et Jonah voient que nous sommes fidèles à l'Église ? Pas comme certaines personnes qu'on voit trop peu souvent. Est-ce que nous sommes venus en se disant que Dieu serait fier de nous d'avoir choisi d'être là plutôt que de regarder la finale de Roland-Garros ou de suivre ensuite la soirée électorale en direct à la télévision ? Dieu doit être fier de nous, n'est-ce pas ? Et je dois vous confesser que je viens parfois à l'église pour de mauvaises raisons, par devoir, et que dans mon cœur, je ne viens pas véritablement pour louer Dieu, l'adorer, et lui rendre un culte. Mais Dieu voit nos motivations les plus profondes, et j'avoue que c'est assez effrayant de se le rappeler parfois. Et dès qu'on commence à regarder à ce que l'on fait pour Dieu, on commence aussi à regarder ce que les autres ne font pas. Assez facilement et assez naturellement, on rentre dans la deuxième chose que critique Jésus dans ce passage, c'est se comparer aux autres et mépriser les autres. C'est en se croyant juste qu'on est amené à mépriser ceux qui ne le sont pas à nos yeux. On a une tendance naturelle à se comparer, mais Dieu, encore une fois, regarde au cœur. Ce pharisien a la prétention de dire « Je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme le reste des hommes, ces ravisseurs, ces adultères, ces injustes. » Encore moins comme ce publicain qui est là-bas au fond de la cour. En vérité, cet homme si religieux ne se tenait pas devant Dieu, mais bien devant les hommes. Donc il ne pouvait être amené qu'à se comparer avec les hommes et à se trouver meilleur que certains, en apparence. Alors peut-être que vous ne vous identifiez pas à ce pharisien et à sa prière audacieuse, sa prière effrontée, insolente. Mais il nous arrive forcément d'avoir ce type d'attitude semblable dans d'autres contextes. Quelle est par exemple notre attitude lorsque l'on parle de théologie avec quelqu'un qui ne partage pas la nôtre ? La théologie réforme évangélique est une bonne théologie, fidèle à la Bible, je le crois. Mais quelle est mon attitude de cœur ? Quelles sont mes pensées envers ceux qui ne partagent pas mon interprétation de la Bible ? Ceux qui refusent l'idée d'une différence de fonction entre les hommes et les femmes ? Est-ce que je méprise dans mon cœur ceux qui attendent le millénium ou qui ne l'attendent pas ? Ceux qui ne baptisent pas les enfants de chrétiens ou qui les baptisent ? Ceux qui parlent en langue ou qui ne parlent pas en langue ? Je vais aller un petit peu plus loin. Quelle est notre attitude de cœur envers ceux qui prient Marie ? Alors en disant cela, je ne veux pas insinuer de doute sur nos convictions théologiques ou doctrinales. Mais gardons-nous systématiquement de mépriser les autres dans notre cœur parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans leur cœur. Et il se pourrait bien qu'ils soient des publicains animés d'une foi humble et confiante en Dieu, alors que nous-mêmes, nous nous tenons debout, fiers et sûrs de nous. Alors gardons-nous de juger les autres, gardons-nous de la critique facile, gardons-nous de la dévalorisation, voire même de rabaisser les autres pour se remonter. Soyons vigilants à la manière dont nous pouvons traiter ou considérer les autres avec mépris. Arrêtons de nous comparer aux autres, et en particulier en ce qui concerne la foi et la piété. Cette parabole nous invite à l'humilité, à suivre l'exemple du publicain dont nous allons parler à présent. Mais avant de passer à cette deuxième partie, rappelons-nous cette parole que nous trouvons en Philippiens 2:3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je pense qu'on a besoin de demander de l'aide à Dieu pour y arriver. Le publicain, lui, il a conscience de son indignité et de son péché. Il s'humilie devant Dieu. Alors c'est quoi un publicain ? Le publicain, c'est un péager, c'est un collecteur d'impôts, chargé de percevoir les taxes au profit de l'État romain. c'est un agent au service de l'occupant romain. En bref, c'est un traître, un collabo. Il est juif, c'est pour cela qu'il peut rentrer dans l'enceinte du temple et prier, comme c'est le cas dans notre texte, mais il est détesté par son peuple parce qu'il collabore avec l'ennemi romain, les occupants. Et vous en connaissez les publicains, il y a Matthieu, celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, l'un des disciples de Jésus. Il était péagé. Vous connaissez aussi peut-être Zachée, le petit homme qui est monté dans l'arbre là pour voir Jésus, peut-être que les enfants voient de quoi je parle. Il était chef des collecteurs d'impôts et on trouve son histoire et sa rencontre avec Jésus qui a vraiment bouleversé sa vie au chapitre 19 de l'évangile de Luc, donc juste après notre passage que nous étudions aujourd'hui. Les collecteurs d'impôts étaient particulièrement détestés par les juifs, pas seulement du fait de leur fonction qui était mal vue, mais souvent parce qu'ils étaient malhonnêtes. Il est tellement facile lorsqu'on est chargé de percevoir une taxe, de demander plus et de garder pour soi la différence. C'est très tentant et cette pratique était en fait généralisée. On comprend du coup qu'il était détesté parce qu'il s'enrichissait sur le dos des contribuables. Le publicain de notre parabole appartient donc à cette catégorie de population qui est quasi systématiquement associée aux pécheurs notoires, aux gens de mauvaise vie. Et l'évangile de Luc insiste particulièrement sur le fait que Jésus va au-devant des personnes marginalisées, des pauvres, des lépreux et des pécheurs notoires comme les prostituées ou les collecteurs d'impôts. Et les religieux reprochent souvent à Jésus d'être proche de ces gens-là parce que cela va à l'encontre des codes sociaux de l'époque. Un rabbi, un enseignant comme Jésus ne devait pas se mélanger avec eux. Mais Jésus fait exprès de les fréquenter. On lit en Luc 5, versets 31-32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour ceux qui pensent être justes et en bonne santé, comme le pharisien de notre parabole, et qui ne cherchent pas à être guéris, mais pour les publicains, les gens de mauvaise vie qui savent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être délivrés de leurs péchés. » L'attitude du publicain dans la parabole, elle tranche en tout point avec celle du pharisien. Son attitude, elle est diamétralement opposée. Il se tient à distance de l'autel, comme pour signifier qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu tel qu'il est. Il s'inquiète du regard de Dieu. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, tellement il a conscience de la grandeur de Dieu, de sa sainteté, de sa propre indignité devant Dieu. Il baisse les yeux. Il se frappe la poitrine en signe d'humiliation. Vous voyez, son attitude extérieure, elle témoigne de la disposition de son cœur. Son attitude et sa prière, elles sont vraiment marquées par l'humilité. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lui, il s'adresse vraiment à Dieu. Et il témoigne dans une prière très courte qu'il se sait injuste. Il sait qu'il est pécheur, il est publicain. Et il dit littéralement « Sois apaisé envers moi, le pécheur. » Il ne dit pas « Je suis un pécheur parmi d'autres. » Il se compare à personne. Il dit « Je suis le pécheur. » Il ne se compare pas à d'autres parce que lui, il a pris Dieu comme point de comparaison et qu'il sait qu'il est totalement insignifiant devant la perfection de Dieu. Et Alex nous avait donné une image pour représenter la différence d'échelle qu'il y a entre Dieu et nous. C'était celle du, peut-être vous en souvenez, celle du grain de sable et du soleil. On ne peut pas représenter un grain de sable et le soleil sur une feuille de papier en gardant la bonne échelle de taille. C'est impossible. Les bonnes proportions, ce n'est pas possible. Eh bien, il en va de même de notre capacité propre à être déclaré juste devant Dieu. Il y a une telle différence d'échelle entre la sainteté de Dieu et nos bonnes œuvres que c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le publicain, il est hanté par le souvenir de ses actes d'extorsion, de vol, de convoitise. Et il a conscience du fait que tout péché est véritablement contre Dieu, contre Dieu. « Toi, contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » C'est une phrase du psaume 51, dont on a déjà lu des versets dans le début de ce culte. C'est un peu ça le cri du cœur de ce publicain. Dans cet état, il reconnaissait n'avoir que deux alternatives. Ou la colère de Dieu, qui lui était due, ou bien la miséricorde dont il se sentait indigne, mais qui seul était capable de le sauver. Et il supplie de « Sois apaisé envers moi !» La question que se pose le publicain, c'est de savoir si un tel pécheur que lui peut être sauvé. Y a-t-il quelque espoir de salut pour un homme qui mérite si bien la colère de Dieu ? Il a entendu parler de la grâce de Dieu et il sait que la grâce seule peut répondre à son besoin. La conscience de son péché, c'est le préalable indispensable pour comprendre son besoin de grâce. Et sa seule espérance, c'est la compassion de Dieu. Le pharisien aurait dû voir ça, mais lui, il était tellement obnubilé par ses bonnes œuvres qu'il ne voyait même plus son péché et son besoin de salut et de grâce. Les bonnes œuvres sont bonnes et il faut les pratiquer. Il ne faut pas oublier qu'on est pécheur. Le verdict de Dieu est très clair dans cette parabole. Le publicain descendit dans sa maison, justifié, au verset 14. Celui qui est déclaré juste, c'est celui qui s'humilie devant Dieu et qui reconnaît son péché et son indignité. Le juste, c'est celui qui se sait injuste et qui s'appuie sur la justice de Dieu et sur sa grâce. Celui que Dieu accueille dans sa grâce, eh ben c'est le publicain. Celui qui sera compté parmi les justes, parmi le peuple de Dieu, celui qui entrera dans le royaume de Dieu, qui recevra la vie éternelle, c'est le publicain. Un ami pasteur disait « La famille de Dieu, c'est la seule fraternité où la condition d'entrer, c'est de s'en sentir indigne. L'Église, c'est la seule organisation sur cette terre dont la condition d'entrer, c'est de s'en sentir indigne. » Alors cette parabole n'enseigne pas la manière dont l'homme est justifié devant Dieu. Mais nous voyons déjà que c'est une grâce, que c'est Dieu qui est à l'initiative, que ce n'est pas une question de mérite. Dieu justifie le pécheur repentant qui demande grâce. La manière dont l'homme est justifié, c'est par le sacrifice de Jésus qui se substitue à nous et qui est condamné à notre place en mourant à la croix et qui ressuscite en vainqueur. Voilà le moyen par lequel on peut être justifié et c'est encore une fois à l'initiative de Dieu. Alors face aux stricts observants de la loi que sont les pharisiens, Jésus donne un publicain en exemple. Vous imaginez le scandale ? C'est comme si je vous disais aujourd'hui, tenez-vous bien, les soldats de l'État islamique vous précéderont dans le royaume de Dieu. Vous auriez envie de m'étrangler hein, si je disais ça, je vous en prie de ne pas le faire. Hein, mais ce que vous avez pu ressentir en entendant que des soldats de l'État islamique, que des meurtriers vous précéderaient dans le royaume de Dieu, c'est à peu près ce que les pharisiens ont dû ressentir en entendant les paroles de Jésus. De l'indignation, et peut-être même de la colère. C'est tellement choquant de voir des pécheurs notoires, des meurtriers, des voleurs rentrer dans le royaume de Dieu. Alors bien sûr, seul un pécheur qui se repent peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et un soldat de l'État islamique ne peut être pardonné que s'il reconnaît son péché, que s'il supplie Dieu dans sa miséricorde de lui accorder sa grâce divine. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'un des membres du commando qui a assassiné 21 chrétiens coptes égyptiens sur une plage libyenne en février 2015 s'est converti. Il a reconnu son péché par le témoignage de ces chrétiens qui étaient décapités. Il a vu la paix qui animait leur cœur. Ça l'a touché, ça l'a interpellé. Et il a fini par donner sa vie à Christ. N'oublions pas la boue de laquelle nous venons. Car nous risquerions de mépriser la grâce de Dieu, d'oublier sa grâce qui est totalement incroyable et imméritée et dont il faut nous émerveiller chaque jour. Alors bien sûr, il ne faut pas ressasser nos péchés comme s'ils n'avaient pas été pardonnés. Mais il ne faut pas non plus oublier d'où l'on vient pour ne pas oublier la grâce de Dieu pour ce qu'elle est. Une grâce totalement imméritée. Je vous lis 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est l'expérience qu'a fait ce publicain. Il a été justifié par Dieu parce qu'il a reconnu son péché, parce qu'il a fléchi devant le Père. Et pas seulement physiquement, mais dans son cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Être justifié, ça ne veut pas seulement dire que Dieu nous dit « Ok, ça va pour cette fois, je te pardonne. » Non, c'est vraiment être compté parmi les justes devant Dieu, ceux qui hériteront la vie éternelle. Et Dieu nous invite à recevoir la grâce, à recevoir la vie éternelle, à entrer dans le royaume de Dieu comme un petit enfant. La semaine dernière, Alex a commenté un passage de l'évangile de Marc au chapitre 10 dans lequel Jésus bénit des petits-enfants et dit « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Et vous remarquerez, en regardant dans vos Bibles, que dans l'évangile de Luc, il rapporte cet épisode de Jésus avec les petits-enfants juste après la parabole que nous avons commentée aujourd'hui. Parce que les petits-enfants représentent la simplicité, la confiance. Un enfant fait par nature confiance à ses parents pour pourvoir à ses besoins. La confiance d'un enfant est même parfois étonnante et troublante. Prenez Madèle et son père Nicolas. Quand il la projette en l'air et lui fait faire 3 saltos, en tant qu'adulte assistant au spectacle, on a une petite frayeur. Mais Madèle, elle rigole tout ce qu'elle peut, elle n'a pas peur du tout. Elle a confiance en son papa, elle a certainement raison. Elle sait naturellement que son père veut son bien et qu'il ne la laissera pas tomber, et elle lui fait confiance. On peut faire confiance à Dieu pour notre salut, parce qu'il ne peut venir que de lui. Et il a déjà pourvu aux moyens par lesquels nous pouvons être sauvés. On peut faire même confiance à Dieu pour tout le reste, pour tous nos besoins, parce qu'il est comme un père pour nous. Et il nous demande seulement d'avoir la foi simple d'un enfant qui fait confiance à son père. Et si Nicolas ne laisse pas tomber Madèle, à combien plus forte raison Dieu ne nous laissera pas tomber ? Alors soyons comme des enfants. Et le dernier enseignement de cette parabole, c'est que l'abaissement humble et sincère sera récompensé. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il est très frappant que la conclusion de cette parabole soit exactement la même que la parabole des invités, les invités qui choisissaient la première place, et on la trouve au chapitre 14 de l'Évangile de Luc. Dans le chapitre 14, il s'agissait de l'orgueil mondain, de ceux qui veulent avoir les premières places. Dans la parabole d'aujourd'hui, il s'agit de l'orgueil spirituel. L'orgueil mondain cherche à acquérir la première place aux dépens des autres, jusqu'à ce que celui qui a donné l'invitation les humilie en les mettant à la dernière place. L'orgueil religieux s'élève dans ses pensées en prenant la place due à Dieu, et par ce fait, méprise ses frères, jusqu'à ce que Dieu lui montre qu'un pauvre pécheur repentant a plus de valeur à ses yeux que celui qui croit occuper une place éminente parmi le peuple de Dieu. Prenons donc à cœur cette instruction, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, parce que l'orgueil spirituel s'insinue facilement dans nos rapports avec nos frères. Celui qui s'estime très haut est toujours en danger de tenir ses frères pour rien et finalement de tomber très bas. Le Seigneur Jésus est le parfait exemple d'abaissement. Lui qui était en forme de Dieu s'est dépouillé et il s'est abaissé, lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et quelle a été la réponse de Dieu ? On la trouve en Philippiens. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus nous a montré le chemin à suivre par son attitude. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais bien sûr, c'est Dieu seul qui a l'autorité pour élever. Le pharisien et le publicain semblaient poursuivre le même but aux yeux des hommes. Ils étaient au temple pour prier. Et il y a souvent peu de différence extérieure entre un chrétien de nom et un vrai chrétien. Mais aux yeux de Dieu, quel contraste, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu voit derrière la façade extérieure, il voit derrière les masques que l'on peut porter. Il ne se laissera pas tromper. On est facilement ébloui par les gens du type pharisien, alors que nous n'attendons rien de bon de ceux du type publicain. Mais vous voyez que le classement à la fin de la parabole est exactement inversé. Si demain, une prostituée vêtue de manière provocante venait à franchir les portes de notre église et à s'asseoir à côté de vous, quel regard porteriez-vous sur elle ? Quel regard porterions-nous sur elle ? Quelles seraient les pensées qui traverseraient notre esprit ? Quelles seraient les dispositions de notre cœur à son égard ? Notre regard ne serait-il pas très proche de celui du pharisien qui observe de loin le publicain ? Jésus est venu chercher des pécheurs, ceux qui se savent pécheurs et qui le reconnaissent humblement dans leur cœur. Alors quand Dieu reviendra, quelle foi trouvera-t-il dans votre cœur, dans notre cœur ? Une foi orgueilleuse ou une foi humble ? Il faut choisir. On prie ? Seigneur, nous devons confesser que nous sommes des pécheurs comme ce publicain et que nous ne valons pas mieux, que nous ne méritons pas ta grâce. Aide-nous à ne pas oublier que l'on est pécheur, mais surtout à ne pas oublier que ta grâce nous purifie, que ton pardon, ta miséricorde nous permet d'être comptés parmi les justes, que le poids et la conséquence de nos péchés a déjà été payé par Jésus à la croix. Nous te prions que, lorsque Jésus reviendra dans la gloire, que chaque personne ici présente puisse être comptée parmi les justes. Nous te prions que tu trouves une foi humble et sincère dans le cœur de chacun d'entre nous. Garde-nous de l'orgueil qui nous éloigne de toi. Garde-nous de l'orgueil qui nous pousse à mépriser les autres dans notre cœur. Aide-nous à cultiver cette humilité à laquelle tu nous invites et qui nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ce ne sont pas vraiment les dispositions naturelles de notre cœur et nous te prions d'œuvrer dans nos vies pour que nous puissions jour après jour être transformés par ton esprit qui habite en nous pour être semblables à l'image de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous te prions, parce que c'est en son nom que nous pouvons nous approcher de toi. Amen. Je te laisse.